Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous touchons à la fin de nos sermons sur la Sainte Eucharistie. Ce que nous allons voir aujourd'hui ne vous apportera peut-être pas des merveilles comme ce que nous avons médité d'autres fois, mais c'est très important parce que nous allons voir comment, justement, nous, très concrètement, nous entrons dans la communion avec le Christ souffrant et avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, il y aura trois parties dans ce sermon. Tout d'abord, les deux manières de communier. Deuxièmement, pourquoi est-on quelquefois privé de communion sacramentelle? Et troisièmement, les conditions pour bien communier. Premièrement, les deux manières de communier. Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a deux manières de communier, la communion sacramentelle et la communion spirituelle. Il est évident que ce ne sont pas deux choses qui se contredistinguent, mais deux étapes. La communion sacramentelle, qui est sous les signes, et qui est au corps de Jésus-Christ, a pour but l'union, donc la communion, de nos esprits, donc spirituels, avec Dieu qui est pur esprit. Autrement dit, la première étape, c'est la communion sacramentelle, qui nous mène à la communion spirituelle. Ou plus exactement, la communion sacramentelle n'est parfaite que si elle atteint la communion spirituelle. Il est évident que la communion spirituelle est le but, même lorsqu'on communie sacramentellement. C'est donc elle que nous devons rechercher lorsque nous allons communier sacramentellement. Lorsque nous recevons la Sainte Communion, faisons bien attention, c'est elle que nous devons rechercher. L'union avec le Christ souffrant, avec le Christ glorieux, avec le Christ qui vit au sein de la Sainte Trinité. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit lors du premier sermon, à savoir que l'Eucharistie a pour but l'union de nos âmes, de nous tout entiers, et donc principalement de nos âmes, avec la très Sainte Trinité, qui est notre fin, notre but. Il peut arriver que la communion spirituelle soit sans la communion sacramentelle. Pour deux raisons, la première essentiellement, car elle est permanente par nature, tandis que la communion sacramentelle est nécessairement passagère. C'est-à-dire que si nous communions à l'hostie, au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un acte qui passe, c'est dans le but d'entrer dans une union qui, elle, demeure, et qui d'ailleurs s'épanouira au ciel dans l'union éternelle. Et donc, il doit y avoir cette union spirituelle constamment dans toutes nos journées. La deuxième raison, c'est que toute union dans la charité, surtout l'union à travers la croix, est une union spirituelle, et donc est une communion. Parler de communion spirituelle ou de charité, pratiquement c'est la même chose. Vous vous rappelez hein, que nous avons vu que les grains de froment et de raisin sont broyés pour ne faire qu'un seul pain et un seul vin, ce qui fait que nous entrons dans la charité. Et comme nous n'y sommes pas seuls, les pères de l'Église nous font remarquer que nous entrons tous ensemble dans la charité, et ils nous parlent de l'Église à ce propos-là. Donc parler de charité ou parler de communion, c'est pareil. Alors pourquoi parle-t-on de communion spirituelle? Parce qu'il y a des moments où nous faisons des actes plus prononcé, plus expressif, plus explicite, d'union à Jésus-Christ, à sa sainte humanité, à son corps, à son sang, même si c'est spirituellement, de manière à mieux entrer dans son mystère. Et nous appelons ça une communion spirituelle. La conséquence de cela, c'est que la communion spirituelle n'est pas un succès d'année, un remplacement, vous voyez, de la communion sacramentelle. C'est très important de ne pas faire de la communion sacramentelle le but et de la communion spirituelle la simple préparation ou le produit de remplacement. Non, la communion sacramentelle prépare à la communion spirituelle. Pourquoi je vous fais cette remarque? Parce que, à l'occasion du confinement, beaucoup de prêtres, plus ou moins traditionnalistes, ont dit à leurs fidèles, c'est terrible, vous n'aviez pas la communion, heureusement que vous pouvez enfin communier. Et ils insistaient tellement qu'on avait l'impression que sans la communion sacramentelle, leur vie s'arrêtait. Il y a même un prêtre, je le sais, qui a dit « Oui, bien sûr, la communion spirituelle, mais ça n'est absolument pas à la hauteur de la communion sacramentelle. » Alors non. Ce qui est vrai, c'est que la communion sacramentelle facilite la communion spirituelle. Alors ça, c'est parfaitement vrai. Et que la communion spirituelle est beaucoup plus facile quand elle a le support de la communion sacramentelle. Bien sûr. Mais, et nous allons voir pourquoi, il arrive que le bon Dieu, justement, prive de ce support pour notre bien. Et nous allons voir pourquoi. Le confinement a mis la plupart d'entre vous dans l'impossibilité de recevoir les sacrements. Et il faut pas se tromper, la malice du confinement, c'était d'abord la privation du culte public. Les grâces qui descendent sur nos pays par la messe publique ont été à moitié stoppées, à moitié parce que le culte a demeuré. Mais il n'était plus public. Ensuite, c'est vrai, il y a les dangers de la privation des sacrements, mais il y a tous les avantages du confinement et tous les avantages de l'épreuve, et j'en arrive à la deuxième partie du sermon. Pourquoi arrive-t-il que nous soyons privés de la communion sacramentelle? Alors une première raison qui va nous mettre sur la piste, ne pas banaliser les choses saintes. C'est pourquoi on ne communie qu'une fois par jour. Parce que c'est vrai, si la communion sacramentelle avait une telle importance, il serait logique de communier à plusieurs messes, si on va plusieurs fois à la messe chaque jour, ou de communier matin et soir, en partant au travail, en revenant du travail, et en passant à l'église, par exemple. Or non, l'église le prohibe absolument. Il y a une exception pour les prêtres à Noël, et une exception pour le jour des morts. C'est tout. Le reste, il arrive que le prêtre dise deux messes, mais c'est uniquement pour pouvoir la donner à plusieurs fidèles. Et non pas pour que les fidèles communient deux fois. Il y a des raisons plus profondes, encore, qui sont données par saint Ignace. Saint Ignace, dans ses exercices, parle de la désolation. Désolation, c'est le contraire de la consolation. Nous sommes un peu livrés à nous-mêmes, et voyez, dans la désolation. Dans la consolation, le bon Dieu nous tient par la main. Et les sacrements se rapprochent de la consolation, parce que le bon Dieu nous tient par la main. Dans la désolation, nous sommes un peu livrés à nous-mêmes. Et saint Ignace pose la question, mais pourquoi la désolation? Si elles sont mauvaises, pourquoi le bon Dieu permet-il le mal? Et la réponse de saint Thomas d'Aquin, c'est que le bon Dieu ne permet le mal toujours que pour un plus grand bien. Et donc saint Ignace se pose la question, quel est le plus grand bien? Et il donne trois raisons. La première, la désolation peut être un châtiment. Et donc la privation de communion sacramentelle peut être un châtiment. Un châtiment soit personnel, parce que celui qui néglige Dieu, qui néglige ses dons, ne peut pas entrer dans la consolation spirituelle, puisqu'il ne leur accorde pas le prix qu'il mérite, la valeur qu'il mérite. Donc il ne peut pas les apprécier. Et puis ça peut être un châtiment collectif. Un pays est privé de sacrements, en châtiment des crimes du pays, même si chacun n'est pas coupable, nous sommes tous solidaires. Et le châtiment est une bonne chose. Châtiment est une bonne chose parce que, premièrement, il répare, deuxièmement, il convertit. Celui qui aime bien châtie bien, et nous voyons bien que le confinement a ressusciter un peu une plus grande conscience, on voit ça chez les modernistes. Moins chez les traditionalistes, parce que les traditionalistes, comme je vous le disais très souvent, ont fixé sur la communion sacramentelle, et ils se sont désolés. Tandis que les autres, peut-être, étant plus libres, enfin, j'en sais rien. Toujours est-il que le confinement nous a obligés à monter plus haut. Bien sûr, il y a un risque, il y a un danger qu'on s'épuise, et nous allons voir comment faire pour ne pas s'épuiser. Deuxièmement, la désolation peut être une épreuve. Dieu veut nous obliger à travailler pour sa gloire, à monter plus haut, à nous donner du mal puisque plus de mal puisqu'il ne nous aide pas, à faire les choses mieux. Vous voyez, épreuve va avec preuve. Une épreuve, c'est pour faire ses preuves. Si vous passez l'épreuve d'un examen, et que vous réussissez, vous avez fait la preuve de vos connaissances. Si vous passez l'épreuve de la désolation, vous faites la preuve de votre amour de Dieu. Et non seulement la preuve, mais vous augmentez votre amour de Dieu. Ensuite, la désolation est une leçon. Elle nous fait découvrir que tout est un don de Dieu. Il est certain que nous nous sommes habitués à la communion sacramentelle, de telle façon que si on n'y fait pas attention, et c'est fréquent de ne pas y faire attention, elle est un peu négligée. Un peu, j'espère qu'elle ne l'est pas trop, j'espère. Mais voyez, comme lorsque nous avons été privés de la messe traditionnelle, un peu après le concile, nous avons découvert quelle était l'importance de la messe. Eh bien, lorsque nous sommes privés de la communion sacramentelle, nous découvrons la valeur de ce don de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, quand nous prenons conscience que Dieu se donne à nous par la grâce, alors nous apprécions la valeur de ce don. Je vous donne des exemples de privation de communion sacramentelle. Les malades. Qui auraient plus besoin que d'autres, semble-t-il, des sacrements? Ils sont dans l'épreuve. Sont dans la désolation. Il serait normal, quelquefois on le fait, porter la communion tous les jours, c'était le but des hôtels-dieux. Les hôtels-dieux permettaient aux malades de communier tous les jours, et même d'assister à la messe. Mais enfin, la plupart du temps, les malades sont privés de communion. Le prêtre ne peut pas se déplacer, ou sont trop fatigués, ou pas en assez bon état. Et pourquoi le bon Dieu permet-il cela? Pour la même raison que la maladie, qui est une épreuve, qui est un peu un châtiment, bien sûr, pour nos péchés, un châtiment qui nous fait du bien, qui fera ça de purgatoire en moins, qui est en même temps une épreuve, et alors l'épreuve se double d'une épreuve spirituelle, et nous sommes obligés d'être unis à Dieu. Les vieillards qui s'approchent du ciel, les mourants, on essaye de leur donner la communion. Mais les vieillards qui s'approchent du ciel. Enfin, autrefois, déjà, à 55 ans, 60 ans, si on habitait à la campagne, à moins d'avoir une carriole à cheval, mais on n'avait pas la messe très souvent. Pourquoi cela? Parce que justement, on s'approche du ciel. Vous avez les ermites, qui se sont privés volontairement de la communion sacramentelle, non pas pour se priver de la communion sacramentelle, mais pour être plus proche de Dieu, plus loin du monde, et ils savaient qu'en étant plus coupés du monde, ils seraient plus proches de Dieu, et que leur communion spirituelle serait donc bien meilleure. Bon, il est vrai qu'il y avait en Égypte des villes d'ermites, avec 2000 ermites vivant chacun dans leur coin et se retrouvant le dimanche. Enfin, ils ne se retrouvaient que le dimanche. Et puis, il y avait des ermites qui ne communiaient pas pendant une année, quelquefois plus. Je voudrais vous parler du cas de Mgr Thuan, par exemple, cet évêque vietnamien qui fut mis en prison par les communistes, et on peut dire quasi torturé parce qu'il fut mis dans une cellule. Oh, jamais il fut soumis à la question, au fouet, tout cela, ces horreurs qu'on lit dans plein d'autres récits. Non, il fut simplement, qu'on pourrait-on dire, mis dans un cachot petit, sombre, puant, sans air. Et le pauvre Mgr Thuan, qui était si content de connaître par cœur les psaumes, beaucoup de prières, et même une partie de l'Écriture sainte, avait du mal à se remémorer son « Je vous salue Marie ». Eh bien, cette épreuve l'a beaucoup enrichi. Il en témoigne, je vous conseille de lire le livre, Thuan, T-H-U-A-N. Cette épreuve l'a beaucoup enrichi. Même n'arrivant pas à prier, c'est pas seulement qu'il pouvait pas communier sacramentellement. Il pouvait même pas formuler les prières. Alors il s'est mis dans les mains du bon Dieu. Si vous lisez sa vie, vous verrez que le bon Dieu, non seulement ne l'a pas abandonné, mais l'a fait monter très haut. Je voudrais terminer cette deuxième partie sur une remarque. Normalement, chaque communion nous fait monter plus haut. Normalement, nous ne devrions pas redescendre. Et normalement, nous devrions toujours monter, toujours plus, toujours plus. Ça devrait être une courbe ascendante, continuelle. Eh bien, il faut que lorsque nous sommes privés de communion sacramentelle, nous ayons cela présent à l'esprit. Non seulement j'aime Dieu, mais je veux monter vers Dieu, je veux augmenter mon amour de Dieu, je veux grandir dans ma croissance de l'amour de Dieu. C'est pas seulement que je veux croître, mais je veux croître dans la croissance. C'est-à-dire, je veux croître de plus en plus dans l'amour de Dieu. Et cela, c'est le remède lorsque la privation dure. Je vous ai dit qu'il y avait un danger dans le confinement, un danger dans la privation des sacrements. Eh bien, le remède à ce danger n'est pas de revenir en arrière, ou de se lamenter, ou de regretter, mais d'entrer à fond dans ce que Dieu nous demande, et entrer à fond, c'est justement entrer dans la communion spirituelle. Je termine par les conditions, troisième partie, les conditions pour bien communier, l'état de grâce, ou au moins la contrition, mais je vous rappelle, hein, en cas de péché grave, la confession préalable est obligatoire. Dans des cas exceptionnels, je vous l'ai déjà dit lors d'un sermon, nous avons vu ça historiquement dans les camps de prisonniers allemands, où il y avait quand même la communion, hein, contrairement aux camps de prisonniers communistes. Donc c'est tout à fait exceptionnel, voyez, surtout quand on est en danger de mort, qu'on ne peut pas avoir la confession, on fait un acte de contrition le plus parfait possible, et puis le bon Dieu fait le reste par la communion. Il faut l'intention droite, c'est-à-dire de vouloir communier pour grandir dans l'amour de Dieu. Ça, c'est une exigence que rappelle Saint Pie X. Il dit, il encourage la communion quotidienne, et il dit les conditions, c'est la grâce et l'intention droite. C'est-à-dire tendre, vous voyez, intention, tendre droitement vers Dieu. Le reste, même s'il y a des péchés véniels, même si on n'aime pas Dieu comme il faudrait, ce qu'il faut, c'est tendre vers un plus grand amour de Dieu. Attention, s'il y a de la négligence, un certain mépris, une certaine nonchalance, l'intention n'est plus vraiment droite. Si il y a un désordre profond et grave, à ce moment-là, il n'y a plus du tout d'intention droite. C'est ce que dit saint Paul. Dans ce cas-là, celui qui communierait mangerait et boirait sa propre condamnation. Enfin, il faut une disposition corporelle qui est d'être à jeun. Autrefois, c'était depuis minuit, c'est-à-dire depuis la veille. Maintenant, Pie XII a réduit cela à 3 heures. Il a pensé bien faire. Ça facilite les choses. On peut réduire dans des cas exceptionnels, par exemple pour le viatique. Mais le mépris du jeûne eucharistique est un mépris du respect dû au saint corps et au saint sang de Jésus-Christ. Et le mépris du jeûne eucharistique est un péché. Il détruit un peu l'intention droite. J'en ai parlé à Mgr Lefebvre, qui m'a dit « on ne peut pas négliger le jeûne eucharistique sans commettre quand même un péché, un manque de respect envers le bon Dieu ». Alors maintenant, on ne le rappelle plus, beaucoup de prêtres chez les modernes disent « oh, ce n'est pas grave », chez les traditionnalistes disent « oh, vous faites comme vous pouvez », alors c'est pas une réponse ça. Non, vous faites 3 heures, et il y a des exceptions. Voilà, je termine. Demandez à la Sainte Vierge toujours de vous préparer à la communion, de vous accompagner dans la communion et de faire fructifier les communions que vous avez faites, qu'elles soient sacramentelles ou spirituelles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.